하나님의 말씀은 누가복음
La parole de Dieu se trouve dans Luc chapitre 24 verset 1 à 12. Luc 24 verset 1 à 12. Nous allons lire à tour de rôle. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle était perplexe à ce sujet, voici que 12 hommes se présentèrent à elle en habit resplendissant, toutes craintives. Ils baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et ils se souvinrent des paroles de Jésus. Du tombeau, ils s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux onze et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie-Mère de Jacques et les autres avec elles le dirent aux apôtres. Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie et ils crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au tombeau. En se baissant, il vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Nous allons prier pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Prions d'abord pour le prédicateur qui va prêcher la parole de Dieu pour qu'il soit fortement influencé par Dieu. Nous allons prier pour nos propres âmes pour qu'elles puissent recevoir la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Dieu le Père, à ce jour saint et précieux, nous sommes réunis pour écouter ta parole de la vie. Sois avec ton serviteur, influence-le par le Saint-Esprit et qu'il puisse vraiment proclamer ta volonté avec une grande inspiration et que tous les fidèles puissent recevoir ta volonté sous l'influence du Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus. Dieu vivant, le Dieu vivant, nous allons lire le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est vivant, il a fait connaître à l'humanité son existence pour que les hommes puissent dépendre du Dieu vivant. Ce fait a été annoncé par la parole et il a montré au monde son Fils qui était dans son sein pour qu'il nous montre le Dieu vivant. Jésus a agi et il nous a montré des choses par lesquelles nous pouvons croire au Dieu qui est vivant. En connaissant le Dieu vivant, nous pouvons croire en lui, nous pouvons dépendre de lui et nous pouvons vivre et obtenir la vie éternelle. L'homme ne peut pas revivre une foi mort. Mais Jésus, qui est un être humain, est mort, mais il a été ressuscité. Cela est possible parce que Dieu l'a fait ressusciter. Et selon la promesse qui avait été déjà faite, notre foi n'est pas une illusion, mais de croire à l'alliance du Seigneur. Il faut abandonner la foi intéressée. Il faut croire aux promesses de Dieu vivant et il faut lui obéir. Et il faut avoir la foi en la résurrection. Croire en Jésus n'est pas perdre quelque chose, mais c'est obtenir les choses qui ont été autorisées par Dieu, c'est-à-dire il faut obtenir la vie éternelle. Il faut croire à la parole de Dieu, il faut l'accepter, il faut croire en Jésus-Christ, il faut lui appartenir, il faut accueillir le Saint-Esprit et lui obéir. Il faut ainsi recevoir la grande grâce de Dieu pour que son homme vive éternellement. Dieu est vivant. Comment pouvons-nous découvrir le Dieu vivant? C'est la Bible qui nous permet de découvrir le Dieu vivant. Sans passer par la Bible, nous ne pouvons pas rencontrer Dieu. Dans la Bible, il y a la parole de Dieu et il y a beaucoup de témoignages de ceux qui ont rencontré Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il y a? Si vous regardez donc ces deux testaments, c'est-à-dire la Bible, vous pouvez résumer d'abord l'Ancien Testament. Qu'est-ce que c'est les grandes lignes de l'Ancien Testament? L'homme demande à Dieu, « Qui es-tu ?» Par exemple, Moïse a demandé à Dieu, « Qui es-tu ?» Alors à ce moment-là, Dieu a dit, « Je suis celui qui existe par lui-même. » Qu'est-ce que ça signifie? Comment pouvons-nous comprendre? Cela signifie qu'il ne meurt jamais. Mais en réalité, lorsque Moïse a posé cette question à Dieu le Père, Moïse voulait demander à Dieu son nom parce qu'il devait se tenir devant le peuple d'Israël et il devait mentionner le Dieu vivant au peuple d'Israël, c'est la raison pour laquelle il voulait connaître son nom. Mais Dieu, au lieu de répondre à cette question directement, il a montré son identité, il a montré sa nature. Donc, il y a une explication dans l'Ancien Testament sur l'existence de Dieu, sur sa nature, sur son identité. Ensuite, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il y a? C'est Dieu qui demande à l'homme, « Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Qui je suis? » Et quelle était la réponse des disciples de Jésus? Les disciples de Jésus disaient, « Tu es le Fils de Dieu vivant. » C'est ainsi que la Bible illustre Dieu et l'homme. La Bible donne des éclaircissements concernant l'identité de Dieu, celle de l'homme. Ceux qui ont rencontré Dieu étaient bien d'accord avec Dieu. Quel était le point d'accord entre Dieu et ceux qui ont rencontré Dieu? C'était l'existence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est vivant. C'est Dieu qui est d'accord avec ça et ceux qui ont rencontré Dieu sont d'accord avec ce fait. Tous ne peuvent pas échapper à cela. Celui qui a découvert Dieu par la Bible peut connaître Dieu, qui se révèle. Jean chapitre 14. À ce jour-là, je serai dans le Père est en moi, et je serai en vous, vous serez en moi. À ce moment-là, vous pouvez observer mes commandements. Celui qui observe ces commandements sera aimé par moi et je me manifesterai à eux. C'est ainsi que Jésus il y a eu beaucoup de persécuteurs contre Jésus. Il y a eu beaucoup de dictateurs, beaucoup de leaders qui ont persécuté Jésus. Mais face à ces persécutions, Jésus a gardé son silence. Alors, après Jésus aussi, il y a eu beaucoup de persécutions contre les chrétiens. Beaucoup de Bibles ont été brûlées. Alors, beaucoup de chrétiens sont morts martyrs. Et alors, beaucoup de chrétiens ont perdu les bases de leur vie. Mais voilà, c'est ça le processus de la création de l'Église de Jésus. S'il n'y a personne qui a découvert Dieu, le christianisme ne peut pas exister. Mais par la Bible, un certain nombre de personnes ont rencontré Jésus, ont découvert Dieu. Chaque fois qu'ils voient, ils découvrent Dieu. Donc, même si on les brûle, même si on brûle la Bible, même si on les persécute, les chrétiens existent toujours. Les persécuteurs ont échoué à anéantir le christianisme. Il y a eu beaucoup qui ont accepté de mourir pour défendre la vérité et pour défendre l'Évangile, pour défendre l'Église du Seigneur. Voilà le christianisme d'aujourd'hui et voilà l'Église de son arc. Grâce à eux, nous pouvons maintenant être confortables lorsque nous croyons en Jésus. Le Christ est enfin venu selon les promesses. Jésus-Christ qui est venu, qu'il a commencé son ministère public, son ministère était cohérent. Ses œuvres étaient cohérentes. Alors pourquoi il est venu? Nous pouvons avoir réponse à cette question si nous regardons ses œuvres. Nous pouvons connaître la raison pour laquelle Jésus est venu. Pourquoi Jésus est venu? En fait, il n'avait aucune hésitation lorsqu'il travaillait. Ce que nous comprenons clairement, c'est que le monde a été vraiment maudit et que l'homme souffre énormément de cette malédiction. Par les œuvres du Seigneur, nous pouvons connaître la souffrance de l'homme. Jésus est venu pour nous sauver de cette malédiction. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la maladie. D'abord, la maladie fait partie de la malédiction. Même si on est malade, on ne prend pas au sérieux cette maladie, mais la maladie est une mauvaise nouvelle pour les hommes. Et c'est une tristesse, c'est un sujet de lamentation. Mais on est déjà habitué à ce genre de maladie. C'est pourquoi même si on est menacé de maladie, on se sent à l'aise. C'est bizarre, en fait. Mais la maladie n'est pas quelque chose de normal. Il y a environ 40 ans, par exemple, une personne âgée qui est, dont l'âge était de 70 ans nous a étonné. Parce que il était rare qu'on vive pendant 70 ans. Si on a 70 ans, on peut imaginer notre apparence. Il peut y avoir seulement les cheveux blancs, par exemple. Il était vraiment rare de découvrir une telle personne âgée. Mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès médical et scientifique. C'est pourquoi on peut vivre longtemps. Mais en temps par le passé, on ne vivait pas longtemps. En plus, on souffrait énormément de maladies. C'était une situation misérable. Il faut lutter contre les maladies et il faut lutter contre la malédiction donnée par le diable et les démons. Même si la société a été modernisée et devenue sophistiquée, il y a toujours les maladies. Même s'il y a beaucoup de progrès scientifiques et médicaux, le diable et les démons agissent toujours. Si on méprise l'action du diable, et des démons, ces derniers peuvent agir plus facilement. Jésus est venu dans ce monde pour nous dire qu'il n'y a plus de malédiction qui peut agir en nous. Vous êtes libéré de la maladie, vous êtes libéré de la malédiction. Il faut chasser les démons en mon nom. En mon nom, vous devez faire disparaître toute votre difficulté et vous êtes libre. C'est ainsi qu'il nous a montré sa grâce et nous avons reçu cette grâce. Ce qui est étrange, c'est que les démons peuvent faire la distinction entre celui qui est vivant et celui qui est mort. Et en fait, ils tremblent devant le nom du Dieu vivant parce que Dieu est vivant. Alors, les démons ne peuvent que partir. Ils abandonnent de travailler s'ils trouvent le nom de celui qui est vivant. Et c'est bien que vous connaissez que Dieu est unique. Même les démons tremblent devant le Dieu unique. Si Dieu n'est pas vivant, les démons ne peuvent pas agir. Ils ne peuvent pas, abandonner leur travail parce que ils ne peuvent pas partir devant celui qui est mort. Il y a une question de la maladie. Cette question nous fait souffrir énormément. Mais en plus de la maladie, il y a autre chose qui nous donne de la souffrance. Par exemple, lorsqu'on travaille dans ce monde, on peut rencontrer beaucoup de difficultés. Tout le monde a une profession. Mais est-ce que vous pouvez travailler sans difficulté? Nous pouvons être chassés de notre lieu de travail. Nos affaires peuvent ne pas prospérer. Nous ne sommes pas toujours en sécurité. Nous pouvons même être menacés de la vie. Nous pouvons ainsi être entourés de beaucoup d'obstacles. Notre vie est toujours en péril. Nous sommes toujours exposés au danger. Alors, on peut rencontrer un brigand, par exemple. On peut être attaqué par quelqu'un. Et puis, il y a une question de la violence aussi. Donc, il faut que nous soyons en sécurité. Et il faut que nous prospérions. Est-ce que vos enfants prospèrent? Est-ce que vos enfants sont en sécurité à l'école? Vous pouvez poser ce genre de questions. Et puis dans l'armée aussi, est-ce que vos enfants sont en sécurité? Ou bien est-ce que vos enfants sont en sécurité dans leur lieu de travail? Nous pouvons être l'objet d'une moquerie, par exemple, dans le lieu de travail. Ou bien est-ce que nous sommes sous l'oppression des démons? Il y a beaucoup de soucis qui nous oppriment. Il y a beaucoup de souffrance, de tristesse dans ce monde. C'est la raison pour laquelle il faut que nous soyons toujours en éveil. Parce qu'on n'est pas toujours en sécurité. Est-ce que tous les membres de la famille sont en sécurité? Qu'est-ce qu'il va se passer dans l'avenir? Qu'est-ce qu'il m'arrive dans l'avenir? Mais il y a la Bible qui nous donne la sécurité. Dieu est vivant et il dit, je suis celui qui t'aide. Je vais t'aider, tu es faible, tu es impuissant. Mais je vais t'aider lorsque tu es en sécurité, lorsque tu es en difficulté, tu ne peux que périr. Mais je suis là et je vais t'aider. Tu auras la sagesse, tu auras la clairvoyance que je te donne. Il y a beaucoup d'impossibilités devant toi, mais je serai ta sagesse, je serai ta clairvoyance. Lorsque tu es exposé à un danger, je serai avec toi, je te protégerai. Tu es déjà en difficulté, ah, voilà, je vais te délivrer de cette souffrance. C'est ça la Bible, c'est ce dont parle la Bible. C'est la parole que Dieu nous donne. En plus, Dieu nous demande, si quelqu'un vous demande, qui est Dieu pour toi? À ce moment-là, on peut répondre, Dieu est mon rocher. Qu'est-ce que le rocher? C'est le fondement sur lequel on construit une maison. C'est le fondement qui est le plus important pour construire quelque chose. Même si on met beaucoup de décorations sur le bâtiment, mais s'il n'y a pas de fondement, ce bâtiment ne peut pas se tenir. La base de la famille est importante aussi. Et vous avez des enfants et vous devez les bien élever, n'est-ce pas? Il ne faut pas laisser tomber vos enfants que vous avez mis au monde. Lorsqu'on conçoit notre vie, il faut aussi un fondement bien solide pour cette vie-là. Et en plus, le Seigneur est mon refuge, c'est ce que vous avez confessé. Lorsque des dangers surviennent, il faut que nous en sortions. Et pour cela, il faut que quelqu'un nous aide. Par exemple, lorsqu'il y a un incendie, lorsqu'il y a une inondation, vous pouvez tout perdre. Il n'y a personne qui t'aide. Et à ce moment-là, il faut quelqu'un qui vous aide. C'est Dieu qui est notre refuge. C'est Dieu qui est notre bouclier. Dieu est notre bouclier. C'est pas la peine de penser à autre chose. Lorsque des flèches qui nous attaquent, il faut quelque chose qui nous protège contre ces boucliers, contre un couteau, par exemple. C'est Dieu qui est notre protecteur. Il est notre forteresse. Si vous êtes en guerre, vous pouvez comprendre l'importance de la forteresse. Les soldats ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas dormir confortablement, mais ils ont besoin de dormir, ils ont besoin de manger, bien qu'ils soient en guerre. De ce point de vue, il faut une forteresse. Il faut soigner les femmes, les enfants pendant la guerre. Pour cela, il faut une forteresse pour qu'ils puissent s'y reposer, pour qu'ils puissent manger, dormir, protéger les faibles. En fait, Dieu nous protège aussi, n'est-ce pas? Il est notre protecteur. Lorsque nous sommes à la maison, il faut que nous soyons en sécurité. Donc, la famille doit aussi être en sécurité. Dieu est notre berger. L'agneau ne peut rien faire sans le berger. Il faut un berger pour que nous soyons protégés contre les animaux féroces. C'est-à-dire, c'est ainsi que Dieu nous a fait connaître. Qui il est? C'est lui en qui nous devons dépendre. Il existe pour que nous puissions dépendre de lui. Il ne faut pas oublier cela. Dieu est vivant. Un mort ne peut pas nous protéger. Dieu est vivant. Donc, si vous regardez la Bible, vous pouvez comprendre Dieu. Il a pitié de nous. Celui qui est plus effrayant, qu'est-ce que c'est? C'est perdre ses parents. Ce sont les orphelins qui sont les plus pitoyables de ce monde. parce qu'un petit enfant qui est devenu orphelin n'a nulle part à aller. Mais tu es notre protecteur. Je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Et c'est la parole de Dieu. Il faut s'y attacher pour que nos âmes ne soient pas ébranlées. Nous rendons un culte aujourd'hui. Ce culte ne doit pas être rendu mort. Ce n'est pas une commémoration qu'on fait à nos ancêtres morts. Lorsqu'on adore Dieu, il faut le faire en vérité, en esprit. Dieu cherche un tel adorateur. Il faut que nous adorions Dieu en vérité, en esprit. C'est ça le culte. Et Dieu recherche une telle personne. Lorsque vous rendez le culte, alors tous les participants au culte doivent adorer Dieu en vérité, en esprit. Il faut l'embrasser. Le culte nous fait sortir de la malédiction. Et le culte nous permet d'être conduits par le Saint-Esprit. Alors, et ceux qui ont été bénis peuvent rencontrer Dieu pendant le culte. Pendant le culte, nous montrerons à Dieu notre foi. Il faut montrer notre amour à Dieu. Il faut montrer notre spiritualité à Dieu pour que nous soyons à la hauteur de Dieu. Il faut montrer à Dieu notre meilleur. Parce que Dieu est vivant, il nous a donné son Fils. À qui nous devons montrer notre meilleur, notre sincérité et notre spiritualité, parce que Dieu est là et il veut voir notre sincérité. Il y a eu les anges qui étaient à la tombe de Jésus-Christ. Si vous regardez la Bible, le texte, pourquoi vous voulez chercher celui qui est vivant parmi les morts? C'était un ange qui a dit aux femmes qui sont allées aux tombes de Jésus, « Pourquoi tu cherches le Seigneur, le Christ, dans la tombe ?» Pourquoi vous le traitez comme mort? Il est vivant, il a été mort, mais il est vivant, il a été ressuscité. C'est lui qui l'a dit. Mais pourquoi vous êtes venu à la tombe pour le rencontrer? Donc c'était la question de l'ange. Dieu est vivant par sa grâce, par sa puissance, il nous aide. Et l'Église est le lieu de travail de Jésus. Et l'Église est le corps de Jésus. Lorsque nous croyons au Seigneur, il ne faut pas que nous soyons insensibles. Il ne faut pas que nous servions Dieu d'une manière religieuse et superstitieuse. Il ne faut pas traiter le Seigneur d'une telle manière. Il y a beaucoup d'églises dans ce monde. Mais cette église ne doit pas Jésus, ne doit pas traiter Jésus comme mort. Mais Avant de mourir, Jésus a parlé de sa résurrection et il a été ressuscité, comme qu'il l'a dit, et devant un certain nombre de personnes, il est monté dans les cieux et ensuite il a envoyé le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, nous pouvons le rencontrer, rencontrer celui qui est vivant. Et Jésus n'a rien laissé dans ce monde. Donc il n'y a pas de trace de Jésus dans ce monde, il n'y a pas de réplique de Jésus dans ce monde. Il est vivant, il n'est pas dans l'Antiquité. Par exemple, il y a 2000 ans, Jésus est venu, il a parlé. Alors là, ses paroles sont démodées? Non. Ses paroles sont réelles et vivantes. Si nous considérons Jésus comme l'un des personnages de l'Antiquité, nous n'aurons pas la vie. Il a parlé, c'est une parole de la vie que nous devons absolument recevoir. C'est pas la peine, on ne peut pas choisir de recevoir la parole de Dieu, il faut absolument la recevoir. Il faut faire confiance en Jésus et il faut que Dieu nous conduise. On a beaucoup de choses à faire dans ce monde, mais ce qui est le plus important à faire, c'est suivre Jésus-Christ. Il y a un seul chemin que nous devons prendre, c'est le chemin de Jésus. Alors, lorsque nous optons pour ce chemin, Dieu nous donne sa parole. Il nous donne une parole. Lorsque nous choisissons le chemin de Jésus, nous pouvons être guidés par ses paroles. Il y a la vérité devant nous, il y a la force de la vie éternelle devant nous. Et alors, nous pouvons obéir à Jésus-Christ. Notre Église nous enseigne. Il faut évangéliser, il faut avoir beaucoup de communication entre les fidèles, il faut travailler volontairement à l'Église. Et il faut donner les offrandes à Dieu, il faut donner la dîme à Dieu, mais difficile de le faire, c'est parce que nous sommes encore charnels. Parce que nous avions été charnels avant de croire en Jésus, donc nous sommes familiers aux habitudes du passé. Donc c'est pourquoi on a du mal à obéir à Jésus. Mais il faut absolument être changé parce que l'Église ne suit pas le cours de ce monde. Il n'y a pas de rapport entre le monde et l'Église. L'Église est différente de ce monde. C'est la raison pour laquelle elle est haïe de ce monde. Nous avons des obligations à remplir en tant que chrétiens. C'est Jésus qui a été haï en premier par le monde, par les pécheurs misérables. Nous avons été rendu à la vie, mais nous sommes encore dans ce monde misérable. Pourquoi on peut survivre dans ce monde? Il faut la parole de Dieu. Si on ne s'attache pas au Dieu vivant, on ne peut que suivre les leçons des morts. Dans nos âmes, qu'est-ce qui peut entrer dans nos âmes? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui demeure en nous. Alors là, si nous sommes intelligents, si nous sommes bien éduqués, nous pouvons comprendre Dieu facilement, non? Et celui qui est pur et simple peut rencontrer Dieu plus facilement. Dieu nous a sauvés de l'enfer. Alors maintenant, il faut montrer la foi à Dieu. Il faut que Dieu nous montre, il faut que nous montrions à Dieu notre foi sincère. À ce moment-là, Dieu nous aide. Si nous avons un espoir, nous pouvons recevoir la parole de Jésus comme un ordre. Nous devons avoir la foi et en même temps, nous devons avoir l'action. Il ne faut pas avoir l'un des deux. Alors, est-ce qu'il y a une concurrence entre celui qui agit et entre celui qui croit? Dieu veut que nous ayons une action, mais dans le cœur de l'homme, au niveau charnel, nous pouvons dire à Jésus, « Seigneur Jésus, je ne veux pas perdre quelque chose. » Je pense que tu n'es pas, il est possible que tu ne sois pas vivant. C'est pourquoi je ne peux pas donner les offrandes à toi. Voilà la pensée, le raisonnement qu'on a eu par le passé. Mais notre vieil homme a été enterré. Si l'Église vous dit évangéliser, travailler bénévolement à l'Église, donner la dîme, donner les offrandes, etc., etc., le Seigneur Jésus avait pitié de nous et a pitié des autres aussi, et donc il faut aider les autres. Mais qu'est-ce que notre raisonnement humain? Ah, j'ai été sauvé, c'est pourquoi je n'ai rien à faire. Par le passé, nous avons vécu sans l'aide de Dieu, mais maintenant, nous sommes dans une nouvelle situation, donc il ne faut pas retourner au passé. Lorsque je vous vois, je suis très fier de vous parce que vous travaillez bénévolement à l'Église ardemment. Et certains fidèles commencent à travailler à 3 heures du matin. Mais il y a certains qui commencent à travailler pour le dimanche, même à partir de samedi. Nous travaillons beaucoup bénévolement à l'Église. C'est bien de le faire. Et puisque, même si on est très fatigué, on fait de son mieux pour réussir au jour du Seigneur. Alors là, il faut avoir ce cœur, il faut avoir cette intention, mais il faut que cette intention soit concrétisée par l'action. C'est ce qui est important, bien que ce soit dur. Il faut avoir l'esprit de la foi qui est toujours défié par le monde. Et les chrétiens changent aussi parce que le monde évolue. Qu'est-ce que c'est le changement des chrétiens? C'est perdre la foi. Alors, si on perd la foi, comment on réagit? Ah, moi, je ne peux pas me réjouir dans ce monde, je ne peux pas jouir de ce monde. C'est pourquoi on a du mal à observer le jour du Seigneur, on a du mal à rendre le culte, on enfreint le jour du Seigneur. Si on le fait, on fait disparaître le fondement de la foi. C'est très dangereux. Il faut que le Seigneur nous amène jusqu'au royaume des cieux. Pour cela, il faut que nous soyons bons observateurs du jour du Seigneur. Si on ne le fait pas, comment le Seigneur pourra nous amener au royaume des cieux? Si on méprise notre relation avec Dieu, si on est en difficulté, comment le Seigneur pourra nous aider? Ça, ce n'est pas possible. On n'a même pas demandé à Dieu de nous aider parce qu'on n'était pas en bonne relation avec Dieu en temps ordinaire. Il ne faut pas servir Jésus comme mort. Et il ne faut pas le traiter comme mort. Est-ce qu'on doit faire beaucoup d'efforts charnels, mentaux? Mais il faut connaître sa volonté pour que nos efforts ne soient pas vains. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, « Israël, écoutez-moi, je vais témoigner de moi, je suis Dieu vivant, je suis ton Dieu. »
Alors,
내가 내 집에서 네 숫소나 내 우리에서 숫염소를 굳이 원하는 건 아니다. 그 이유는 모든 이런 숲속의 짐승들과 또 모든 크고 작은 이런 언덕들에 있는 가축들도 다 내 것이고 산의 새들도 하나하나가 다 내 아는 것이고 이런 또
Écoutez, mon peuple Israël, tout ce qui se trouve dans ce monde est à moi, les animaux sont à moi, toutes les plantes sont à moi. Le monde est à moi, donc je ne te demande rien. J'ai tout ce qui est nécessaire pour moi. Est-ce que je suis celui qui mange le sang des animaux? Est-ce que je manque de cela? C'est pourquoi je vous demande de me le donner. Il faut rendre grâce à Dieu le Père. Il faut donner des sacrifices à Dieu avec action de grâce. Il faut que tu accomplisses tes vœux, coûte que coûte. Il faut donner des sacrifices à Dieu avec gratitude. Il ne faut pas traiter Dieu comme mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide? Si on est en sécurité, on va bien, et alors on devient un peu décontracté. Et alors, on ne peut pas avoir une relation intime avec Dieu lorsqu'on est en paix. Mais lorsqu'on est en paix, il faut penser à Dieu. Par exemple, avant d'aller au lieu de travail, il faut dire à Dieu, « Aide-moi, Seigneur, aujourd'hui, aide ma famille. » Prête ton oreille à moi lorsque je t'appelle, réponds-moi. Réponds à mon appel. Il faut ainsi commencer une journée par la prière parce qu'on ne sait pas ce qu'il va arriver devant nous. Et qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors on veut dépendre de soi-même. Si on agit d'une telle manière, on a trop de choses à faire, on a trop d'obstacles à franchir. Il n'y a que le désespoir que nous pouvons rencontrer si nous essayons de vivre avec seulement nos propres forces. Mais si on est dans le sang du Seigneur, on ne tombe pas, on ne sera pas scandalisé. Si on est dans le sang de Dieu, on ne pourra pas subir des difficultés, bien que vous soyez en difficulté maintenant. Même si quelque chose ne marche pas maintenant, la situation pourra être complètement bouleversée et nous serons vainqueurs. Si tu es avec nous, il faut y croire. Lors du baptême, notre vieil homme a été bien totalement enterré. Ce n'est pas la peine de retourner au passé. Il faut abandonner notre vieille habitude. Il faut dépendre du Seigneur vivant. Il faut vivre en tant que chrétien digne. Notre Seigneur veut rencontrer les vivants. Parce que les vivants, il veut que nous soyons vivants. Si vous dites, je suis dans le désespoir, j'ai trop de choses que j'ai perdues. Alors là, qu'est-ce que je peux faire maintenant parce que j'ai trop perdu, c'est trop tard. Si je meurs, tout sera fini. Même si on est chrétien, on le dit. Alors, si je meurs, je pourrais terminer tout cela. Si on abandonne l'espoir, si l'on abandonne nos âmes, on n'aura pas d'espoir. Dieu ne peut pas être avec nous si on est attaché au monde, si on est dans le désespoir. Est-ce que la mort, c'est la fin? Si on raisonne comme ça, on ne peut pas rencontrer Jésus. Si on veut vivre seulement au niveau charnel, on ne peut pas rencontrer Jésus non plus. Il ne faut pas raisonner d'une telle manière. Même la mort de la chair, c'est le commencement de la vie éternelle. Dieu ne peut pas nous abandonner. Donc il faut bien connaître Jésus et sa volonté. Le Seigneur est notre rocher, notre refuge, notre bouclier, notre forteresse, notre berger. Il faut que nous nous rappelions toujours de cette parole et il faut rappeler cette parole-là à vos prochains. Il faut se consoler les uns les autres, il faut s'encourager les uns les autres. On ne peut pas vivre avec seulement notre force. Il faut abandonner notre raisonnement et il faut dépendre de Dieu. Nos âmes ont été rendues à la vie, alors nous sommes les enfants de Dieu, nous avons l'autorité d'enfants de Dieu. Donc il faut que nous soyons dignes de ce statut. Il faut servir le Seigneur avec une foi vivante. Lorsque vous êtes préoccupé pour vos familles, il ne faut pas être attristé. Même si vous êtes faible physiquement, il ne faut pas être dans le désespoir. Même si vous avez des difficultés, il ne faut pas abandonner vous-même. Il faut dépendre de Jésus. Il faut dépendre de Jésus. Nous sommes le corps de Jésus. Nous constituons le corps de Jésus. Alors là, nous sommes faits frères et sœurs. Nous sommes tous une famille. Donc il est tout à fait normal que nous nous consolions les uns les autres. Et il faut parler aux autres de la grâce de Jésus. Il faut partager cela. Et à l'Église, il faut être toujours amical, cordial, même s'il y a les nouveaux venus. Il ne faut pas se sentir mal à l'aise. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Et il faut les aider, il faut aider les nouveaux venus, parce que vous étiez dans l'ignorance, vous étiez dans le désespoir total, mais vous en êtes sortis, donc maintenant vous devez aider ceux qui sont encore dans le désespoir. Mes bien-aimés, vous les Bériens, vous êtes, vous connaissez Dieu, et il faut que le salut de Jésus soit accompli en vous. Montrez-moi votre détermination. Merci beaucoup. Veuillez vous lever. Nous allons prier tous ensemble pour que Dieu agisse. Il ne faut pas considérer Jésus comme mort. Il ne faut pas le considérer comme leader mental. Ce n'est pas suffisant. Il est notre maître. Il est notre protecteur. Il faut qu'il nous aide. Il faut qu'il le protège. Il faut qu'il protège nos familles. Et ensuite, il faut que l'objectif de Dieu soit accompli en nous. Repentons-nous d'abord et puis demandons l'aide à Dieu. Prions avec humilité et appelons le nom de Jésus trois fois.